son des bobines, Luffy femme, ses films et ses vampires.
You are too late. My blood now flows through your veins.
Je suis Dracula. Et je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Hark, dans ma résidence.
Bienvenue sur On Débobine, une émission créée spécialement pour le Festival international du film d'Amiens. C'est déjà la quatrième émission que j'anime en compagnie de Thomas, Gaël et Adam. Salut à vous trois.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à tous.
Et salut.
Alors on a beaucoup de choses à aborder aujourd'hui, mais pour faire suite à l'émission d'hier, je vous propose de commencer par évoquer les derniers coups de cœur que l'on a vus. Je pense notamment au premier long-métrage de Victor Rodenbach, Le Beau Rôle. Avec Adam, on a interviewé son réalisateur et avant qu'on aille plus loin, on s'écoute la bande-annonce du film, puis notre échange avec lui.
Ok, on y va ?
Je me présente, je m'appelle Henri.
Tes parents étaient fans de Balavoine ?
C'est un personnage qui est en dépression, Ivanov. Et ça m'a fait penser à Marty McFly dans Retour vers le futur 2.
On a créé la compagnie quand on était étudiant et on a fait tous nos spectacles ensemble.
C'est un casting qui est important, tout parier sur le coup là.
Le bout du risque.
Ça te parle ?
Bah ouais, regarde-moi.
Tiens ! Oula !
C'est l'aventure qui coule dans mes veines.
C'était Noémie, ils t'ont adoré. Puis t'as le rôle ?
Sérieusement ?
Ça va rouler, fais-moi confiance. Je serais pas le premier à faire un film et à répéter une pièce au même moment.
On fait comment sans Ivanov ?
On trouve un autre et un meilleur. On n'y croit pas, là, hein ?
On essaie de pas le rattraper, mais il est trop long.
Mais attends, tu te rends compte ? En fait, là, on peut pas travailler si tu viens pas. Et quand, enfin, t'es là, bah, y a personne.
Eh ben, je fais de mon mieux, là !
Mais c'est pas assez, en fait ! On se doit plus !
C'est normal d'avoir besoin de prendre du temps pour trouver tes marques.
T'as compris ?
Ok.
T'es pas sur un spectacle de ta meuf, hein ?
Hey !
Ah ! Oh ! Mais qu'est-ce que tu fais, là ?
Oh ! 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 Oh !
Il est magnifique, ce sol !
Je pourrais me trouver autre chose, parce qu'il faut vraiment que je bosse, là.
Regarde les costumes, on dirait les bronzés fonds du ski. Ah d'accord, vous êtes organisé, c'est une mutinerie.
Mon problème, c'est que t'arrives pas à laisser ta place à quelqu'un d'autre.
Wow. Écoute, on a presque fini ce film. Je peux te le dire maintenant, je n'ai aucune idée d'où je vais.
Victor Rodenbach, vous venez aujourd'hui présenter votre film en avant-première Le Beau Rôle, qui sort officiellement le 18 décembre. Donc c'est une comédie d'amour, une comédie de remariage. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour ce genre pour votre premier long métrage ?
C'est un genre qui m'est cher un peu depuis toujours. Je pense que depuis, ça fait partie des genres qui m'ont un peu donné goût au cinéma très tôt. Et que j'ai appris aussi à aimer encore plus à mesure que je développais mes goûts et mes envies de cinéma. Parce que je me suis rendu compte que c'est un genre qui permettait, tout en restant très innocent, d'aborder sans en avoir l'air des thématiques peut-être un peu plus profondes, un peu plus existentielles et sans céder pour autant sa légèreté et sa capacité à enchanter le monde. Donc voilà, et particulièrement la comédie de remariage, en fait, voilà, qui confronte le personnage et donc le spectateur à cette dynamique amoureuse qui impose de faire face à une rupture et donc voilà, quelque part aussi un deuil d'une certaine manière, de quelque chose qu'on a construit et qui s'effondre, et donc voilà, la capacité à se reconstruire ou pas. Donc voilà, tout en faisant rire et en émouvant et en parlant d'amour, voilà, confronté un peu à des choses peut-être plus souterraines, plus profondes qui moi me font assez vibrer et voilà, dans lequel je me projette assez en mise en scène aussi. Ouais.
Le regard est quelque chose qu'on retrouve tout au long du film et on pense à une scène au début où ils se regardent et nous en tant que spectateurs on a les sous-titres, donc le regard est un peu comme une sorte de dialogue. C'est un peu ce qui structure un peu le film aussi, la notion du regard sans pouvoir se parler concrètement, quoi.
C'est aussi quelque chose qui clôture le film.
Tout à fait. Je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose de très juste. Dans le film, il y a deux choses qui structurent le film. En fait, c'est le regard et la capacité à parler, en fait, à la fois dans l'histoire amoureuse et dans le travail, puisque voilà, ça raconte des gens qui s'aiment et qui travaillent ensemble. Et du coup, assez simplement, leur histoire, ça a construit un peu une architecture de cette manière-là, c'est-à-dire en gros, l'histoire entre eux, leur histoire d'amour fonctionne quand ils arrivent à parler, à vraiment converser. Donc que ce soit pour parler de leurs sentiments, de leur couple, mais aussi à parler concrètement dans le travail, puisque elle le dirige sur scène. Donc la parole est un endroit très important pour eux. Et le regard de la même manière, c'est-à-dire comment regarder l'autre, le regarder comme un acteur qu'on dirige, le regarder comme quelqu'un qu'on aime, les deux en même temps ou que un des deux. Voilà. Et donc en gros, voilà, quand le regard se brise, quand la conversation se brise, bah, ça, l'histoire cesse de fonctionner. Et la question de l'espoir se pose à ce moment-là. Est-ce qu'ils arriveront à reparler ensemble différemment? Et c'est vrai que pour cette scène-là précisément dont vous parlez, je cherchais une idée de mise en scène qui pourrait synthétiser les deux, en fait. Voilà, à la fois raconter le croisement de ces deux lignes-là et aussi raconter peut-être de manière plus métaphorique cette idée d'un couple qui a vécu depuis longtemps et qui se comprend sans même se parler, en fait. Ce qui peut être à la fois très romantique, raconter une intimité très douce, mais aussi prendre une tournure un peu plus inquiétante, en fait, quand on en est à ce point-là, ça peut devenir un peu étouffant. Donc voilà, il y a ces deux aspects-là dans cette scène qui me semblaient importants.
Mais justement, en parlant d'intimité, le film, il représente quand même une relation sans limite. Je pense à une scène où elle est où ils ont un rapport intime et où elle se met à travailler. Pourquoi cette représentation du couple ?
C'était mon sujet, en fait. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter moi-même dans ma vie, c'est-à-dire quand on a la chance d'avoir un métier de passion et de le partager avec la personne avec qui on partage sa vie. Il y a des moments de la vie où ça devient un moteur très fort, très puissant, même pour le couple, de partager les mêmes inquiétudes, les mêmes élans. Et il y a d'autres moments où ça devient carrément invasif. Et souvent, ce truc-là se fait de manière un peu insidieuse, sans qu'on s'en rende compte. Et voilà, cette scène, pour moi, elle symbolise ça, quoi. Elle raconte ce moment où ce qui les a construits, ce qui les a fait s'aimer si fort, bah, finalement, se retrouve un peu à les enfermer, voire à parasiter. Même leur intimité, quoi. Voilà. Mais de manière légère et drôle, j'espère.
Dans le film, le personnage de Nora choisit d'adapter Ivanov de Tchekhov. Pourquoi précisément cette scène, cette pièce?
Alors, Ivanov, c'est un choix, c'est le choix du texte d'une scène, vraiment, qui est la scène qu'on entend à la fin, la scène de l'amour actif. La question de quelle pièce allait être adaptée par Nora a été un sujet assez long à l'écriture jusqu'à la fin. On est passé par différentes pièces. Et on avait fait un détour par Tchekhov pour finalement arriver à Don Juan de Molière, pour tout vous dire. Et c'est notamment en parlant avec Vimala Ponce, au moment où elle a rejoint le projet, qu'elle avait lu une version antérieure où il y avait du Tchekhov, qui m'a un peu relancé sur ça en me disant à quel point pour elle il y avait quelque chose de très qui résonnait beaucoup. Et c'est en discutant avec elle que je me suis rendu compte que déjà la langue de Tchekhov apportait beaucoup d'avantages par rapport à une langue théâtrale plus ancienne comme celle de Molière. Comme on n'a pas beaucoup de temps de paroles théâtrales dans le film, c'était important que le spectateur du film puisse rentrer directement dans l'émotion du texte. Et il y a quelque chose comme ça dans la langue de Tchekhov qui prend immédiatement. Et en lecture, en fait, j'ai demandé à Salif, un peu à brûle-pourpoint, Salif Cissé, l'acteur qui joue le personnage de David, de lire ce texte qui est normalement dit par un personnage féminin. Et la manière dont cet acteur génial s'est très naturellement emparé de ce texte-là, ça a créé quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Et juste vraiment très peu de temps avant le tournage, j'ai eu le sentiment de mettre le doigt sur un peu la pièce qui manquait au puzzle, en fait, pour le final du film. Donc à la fois l'émotion procurée par ce texte dit par cet acteur, qui par ailleurs ce texte résonnait parfaitement à ce que les deux personnages principaux vivaient, quoi. Donc en gros, voilà, il y avait Salif qui disait devant Henri et Nora ce qu'ils n'étaient pas capables de se dire vraiment, mais ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, quoi.
À un moment du film, Nora, elle dit on n'est pas là pour faire du beau. Est-ce que ça a un rapport avec le titre, le beau rôle?
Bonne question, pas consciemment en tout cas. Je pense que c'est plus une manière d'exprimer une révélation artistique qu'elle a à ce moment-là de chemin vers la sincérité. Voilà. Et c'est vrai que dans sa pratique du théâtre, après le départ d'Henri, l'idée du beau auquel elle s'accroche malgré l'inconfort ou même l'impossibilité à travailler que ça procure et sur lequel elle s'aveugle complètement, qu'elle refuse de voir, pour moi ça métaphorisait bien ce moment de sa vie où elle refuse, en fait, de se remettre en question, d'embrasser le changement que finalement le départ de William lui offre, et ça devenait aussi quelque chose chose d'assez palpable. J'avais le sentiment, et assez facile à comprendre pour le spectateur qui n'est pas forcément un expert en scénographie théâtrale, ou voilà, de sentir que voilà, jusque-là, le travail de la pièce baignait dans un esthétisme un peu inhospitalier, et que le spectacle final, qui finit par fonctionner et par réunir tout le monde, donne le sentiment de quelque chose de plus authentique, de plus réel, de plus avec une proximité plus grande, et de retrouver cette chaleur dont je parlais, qui habitait le monde du théâtre avant le départ d'Henri.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci à vous.
C'était donc l'interview de Victor Rodenbach, réalisateur du film Le Beau Rôle, qui sort en salle le 18 décembre. Alors toi, Adam, qu'as-tu pensé du film ?
C'est un film qui est assez imparfait, mais qui recèle des choses assez intéressantes, c'est-à-dire... en soi, moi, l'affiliation cinéma et théâtre, où les deux univers essaient de coexister en même temps, et en même temps ils ne sont pas éclairés de la même manière. Il y a tout un jeu sur les regards aussi dans le film qui est assez important, sur les choses qu'on peut se dire, qu'on peut pas se dire, en même temps quand l'affiliation, l'amour va au-delà, impact sur le travail. C'est des trucs assez classiques, mais... qui sont utilisés correctement dans le film. C'est vraiment une comédie de remariage assez classique, mais qui reste malgré tout sympathique.
Oui, où le jeu de lumière apporte quelque chose de différent par rapport à ce qu'on peut déjà voir dans les comédies romantiques et de remariage. Et bien maintenant que l'on est revenu sur les derniers coups de cœur que nous avons vus, je vous pose la fameuse question: qu'est-ce que vous avez vu comme film depuis hier ?
Je retiens de la journée d'hier un documentaire martiniquais qui s'appelle « Z-Wall » de Gilles Elie Di Cosac. Ça raconte, à partir d'interviews de différents protagonistes, l'histoire de Robert de Saint-Rose, qui, après avoir vu des hommes marcher sur la Lune à la télévision, se met en tête d'être le premier Martiniquais à marcher sur la Lune. Et donc, il demande à un ami de lui construire une fusée dans son jardin. Et il se renseigne pour savoir comment faire pour aller sur la Lune, pour faire décoller sa fusée. Et puis, à un moment, il y a un de ses anciens professeurs qui témoigne, qui lui dit, bon, comme il me cassait un peu les pieds, je lui dis, écoute, va lire Aimé Césaire et fous-moi la paix. Et en fait, il est persuadé, ce fameux Robert de Saint-Rose, est persuadé qu'en lisant Aimé Césaire, il va faire décoller sa fusée. Alors c'est une histoire assez dingue. Donc, il y a différents témoignages, son ancienne petite amie, son frère, la personne qui a construit la fusée, son ancien professeur. Et c'est une histoire assez dingue de cet homme qui est persuadé qu'avec cette fusée construite dans son jardin, qu'il allait pouvoir la faire décoller en lisant des poèmes d'Aimé Césaire. Et on se dit c'est une blague, mais non, c'est vrai. Et puis du jour au lendemain, la fusée et Robert de Saint-Rose ont disparu. Alors bien sûr, quand il avait convié des amis à venir assister au décollage, bien sûr tout le monde s'est foutu de lui, et Robert de Saint-Rose a été surnommé Z-Wall, d'où le titre du film, Z-Wall. Et c'est une histoire assez dingue. Moi, ça me fait penser à des films comme Ed Wood. Donc c'est genre un peu lunaire, c'est le cas de le dire. Et il y a quand même pas mal de compassion par rapport à ce personnage. Et c'est vraiment étrange qu'il disparaisse comme ça et plus jamais personne n'en a entendu parler.
Vous les garçons, qu'est-ce que vous avez vu comme film ?
Du coup, hier, je me suis intéressé à un film en compétition qui s'appelle L'Homme Vertige, réalisé par Mallory Eloy Paisley, du coup, qui est un documentaire sur des marginaux en Guadeloupe. Et en fait, même si le film a une sensation un peu étrange de deux films en un, c'est malgré tout assez intéressant parce qu'il y a l'affiliation entre le documentaire et le poème. C'est un objet assez particulier, assez osé et qui trotte pas mal dans la tête.
Alors Gaël a enfin vu Blade. Ça y est.
Oui, ça y est, enfin.
Et tu ne vas pas pouvoir en parler dans cette émission.
Non, mais je vous en parlerai demain, du coup.
Exactement, oui. On reviendra sur Blade demain, puisque je vous expliquerai en fin d'émission les raisons qui me poussent à empêcher Gaël de parler aujourd'hui.
Et oui.
Eh bien, merci pour ce petit résumé des films que vous avez vus. Je change pas totalement de sujet, mais j'ai pas de transition non plus, donc voilà.
Avec les moyens du bord.
Exactement. Depuis le début de la semaine, on a évoqué donc les différentes sections du festival, l'afrofuturisme et le futurisme africain, filmé seul, les films en compétition et les coups de cœur. Mais il nous manque la section jeunesse, que l'on qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de traiter, mais car les dernières séances, elles ont eu lieu hier. Mais je suis allée voir le programmateur de cette section, et c'est aussi le responsable des bénévoles, il est multicasquette, et il est venu accompagné de 3 d'entre eux, donc je vous propose de découvrir les coulisses du festival avec Jade, Eve, Lynn et Romain. Salut Jade.
Bonjour Colline.
Tu es pas seulement celui qui s'occupe des bénévoles, tu es aussi tu fais partie de la programme, enfin tu gères la programmation de la section jeunesse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais?
Pas mal de choses. On a déjà, pour faire un peu bref, on a deux projets qui commencent en amont du festival, qui commencent dès la rentrée, le Cinémétro à partir de septembre et le Colorado, c'est une semaine très intense en octobre où des élèves, des collégiens, des lycéens ont une semaine pour réaliser des films d'animation avec La Fabrique d'Images et Wetsum. C'était au Safran, que dire d'autre. Et donc après, c'est beaucoup les réservations pendant le festival, que ce soit de la maternelle jusqu'à l'université, un peu aussi de lien avec les associations, etc. Et pendant le festival, c'est beaucoup de gestion des bénévoles, des plannings, des horaires, des absences, des maladies, de tous les petits trucs qui peuvent, tous les imprévus quand il s'agit de 120 êtres humains dont il faut gérer des emplois du temps.
Et justement, là, on est entouré de 3 bénévoles. Eve, est-ce que toi, tu peux nous... Ça fait combien de temps que tu es au festival et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en tant que bénévole ici?
C'est 9e festival et j'encadre la direction de Jade et avec un grand nombre d'autres bénévoles, les entrées, les arrivées des enfants et leur installation dans les salles de théâtre, alors petit théâtre ou grand théâtre en fonction du nombre et des films, et puis ensuite leur sortie. Voilà. Et nous encadrons aussi les enfants avec à l'aide des institutrices et des instituteurs pendant la séance filmée.
Ah, c'est ton 9e festival?
Oui.
Pourquoi est-ce que chaque année tu reviens? C'est quoi? C'est une ambiance? C'est le travail en lui-même qui te plaît
Alors, la première année, j'ai été recrutée pour rendre service. Et j'ai été très contente de l'ambiance, de l'accueil. Et puis, je trouve que c'est une très belle chose de permettre à tous les enfants, à partir d'un âge de petite section de maternelle, finalement d'accéder à la culture. Donc c'est un émerveillement pour moi chaque année de voir des petits d'école maternelle qui viennent à une séance de cinéma pour la première fois. Donc c'est vrai que je suis bénévole, mais le retour est vraiment très important pour moi.
Ah bah je me tourne vers 2 autres bénévoles qui ont accepté de parler au micro. Même question, pourquoi est-ce que, qu'est-ce que vous faites au sein du festival en tant que bénévole?
Bonjour, du coup moi je fais comme Eve un petit peu les séances scolaires le matin, mais aussi assez souvent le prix du public, donc juste on donne des billets pour que les... enfin des billets, pas de l'argent hein, mais des petits coupons pour que les gens puissent voter pour les films en compétition. J'ai aussi fait les 2 dernières années de l'accueil invité, parfois il faut aller chercher les invités à la gare, avec des petites feuilles avec leur nom. C'est des missions un peu marrantes, un peu sympas.
Mais du coup, toi aussi, c'est pas la première année.
Ça fait 3 ans, c'est la 3e année là.
Et du coup, pourquoi est-ce que tu reviens chaque année?
Moi, je suis étudiante en cinéma à la fac d'art à Amiens. Donc, nous, c'est vrai qu'avec la fac, les 2 précédentes années, on était entre guillemets obligés de venir au festival, même si c'est un plaisir. Enfin, quand on aime le cinéma, évidemment qu'on serait venu quand même, mais ça a commencé comme ça. Et donc du coup, on s'est dit avec des amis, pourquoi pas être bénévole aussi. On recommence parce que c'est une expérience chouette, enrichissante. On voit un peu les dessous du festival, on va dire. Et c'est ça qui est cool.
Et du coup, pour toi, c'est pareil
Qu'est-ce que tu fais au sein du festival?
Ouais, donc moi en fait j'accompagne Marie-France toute la semaine. Je suis entre guillemets son assistant, même si j'aime pas ce mot, puisqu'elle n'a pas besoin d'être assistée. Mais et voilà, je suis là pour essayer de la guider toute la semaine pour qu'elle pense à ses rendez-vous, qu'elle soit à l'heure aux présentations, etc.
Et il y en a des rendez-vous.
Et c'est pas toujours forcément facile de pouvoir avoir tout en tête. Donc je l'accompagne toute la semaine pour essayer de lui faciliter la vie.
Et du coup, ça fait combien de temps, toi? C'est ta première année ou ça fait déjà...
Alors moi, ça fait plus longtemps que les autres, c'est mon 25e.
Ton 25e festival.
Ouais, festival. Alors j'ai commencé comme spectateur, hein, bien sûr, quand j'étais au lycée, parce que j'étais en section cinéma. Et après le lycée, je voulais absolument continuer à venir sur ce festival. Et je ne me suis pas uniquement en tant que spectateur, j'ai voulu être bénévole. Donc comme les deux précédentes, j'ai commencé par la case accueil scolaire avec Jade. Enfin non, à l'époque, c'était même pas encore Jade, mais bon, Jade, il contribuait déjà beaucoup. Il était bénévole aussi à l'époque, c'est vrai. Puis ensuite, j'ai fait de l'accompagnement de jury. Et puis donc depuis l'arrivée de Marie-France, je l'accompagne.
Ah oui, donc c'est vraiment un rendez-vous chaque année. Ouais. Avec, en plus, tu as pu toucher vraiment à plein de domaines différents du festival.
Ouais, c'est ça, c'est un rendez-vous que je manquerai jamais. Enfin, sauf
malade.
Vraiment, je peux pas y échapper. Mais non, c'est vraiment trop important pour moi de venir sur ce festival.
Pourquoi c'est si important pour toi? Enfin, c'est super beau, je trouve, hein, 25 ans, 25 festivals. C'est... Parce que du coup, tu as connu Anouchka, l'ancienne directrice.
J'ai connu Jean-Pierre, Fabien, Anouchka et donc maintenant Marie-France.
Toi, Jade, donc du coup, tu gères les bénévoles depuis combien de temps?
Là, je suis à ce poste depuis 2019.
Qu'est-ce que ça t'apporte, toi?
Alors, je pense que je suis obligé de revenir un peu en arrière parce que moi, j'ai été bénévole très longtemps avant d'arriver à ce poste. Je pense à peu près en même temps que Romain, on a dû commencer dans les mêmes années, vu qu'on est arrivé à la fac dans les mêmes années. Et donc, dès ma première année, j'avais 17 ans. Ça faisait 2 mois que j'étais à Amiens, je connaissais pas la ville et je me suis retrouvé ici. Et j'ai, comme l'a dit Romain, en fait, je pense que je me suis fait plein, même dans ma promo, j'ai découvert plein de gens grâce à ce festival, puisqu'on allait. On se retrouvait dans des séances en commun, plus ou moins par hasard, etc. Donc j'ai tout de suite aimé cette ambiance-là, que j'étais plus à l'aise dans des ambiances de festival avec des gros rushs que dans des ambiances de travail, on va dire, plus avec des horaires plus redondants toute l'année, etc. Et donc, voilà, je me suis mis à travailler à gauche, à droite, dans des assos, dans des trucs, et au bout d'un moment, une des assos pour lesquelles je travaille s'est mise à travailler avec le festival sur le Cinémétro, le fameux projet qui commence à la rentrée. Et voilà, pendant 2 ans, je faisais ça. Et au bout de 2 ans, la personne qui fait les plannings du Cinémétro est partie. Donc, voilà, j'ai repris ce poste-là. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Je sais que la gestion des bénévoles, c'est quelque chose que j'aurais du mal à lâcher complètement. Il y a eu des époques où les bénévoles étaient peut-être moins considérés que d'autres. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que bénévole à l'époque, ça pouvait être assez frustrant. Donc je sais que je pense, en tout cas, que j'essaye de gérer les bénévoles où je veux qu'ils en ressortent avec autant de choses, si ce n'est plus que ce que nous... voilà. Enfin, c'est-à-dire que la plupart des créneaux, maintenant, des missions sont liés à une séance, par exemple. Le but, c'est qu'ils voient la séance et qu'ils nous filent un coup de main. Pas juste qu'ils viennent se poster à un endroit pendant une heure ou deux sans avoir de contrepartie, entre guillemets, artistique, etc. quoi. Donc, du coup, j'ai essayé de faire en sorte que la plupart des missions puissent permettre de rester à la séance ou ce genre de choses. Et je pense... Enfin, voilà, j'ai l'impression que le fait de retenir les prénoms d'année après année, de tout ça, ça voilà, y a tout type de bénévoles, mais il y a des gens qui ont aussi, voilà, ça peut leur faire du bien aussi. Et voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de lâcher complètement. Je pense que j'ai peur que même des gens de confiance, j'ai un peu peur de me dire, je sais pas s'ils vont bien les traiter tout le temps, même parce qu'avec la fatigue, voilà, parfois, on peut être un peu plus irritant, irritable que d'autres moments. Donc du coup, voilà, je pense que c'est quelque chose que j'aurais du mal à lâcher.
Vous venez d'écouter un échange avec Jade, Lynn, Romain et Eve, bénévoles pour 3 d'entre eux au Festival International du Film d'Amiens. Toujours sans transition, un petit avant-goût de l'émission de demain, car ce sera déjà notre dernière émission. Et nous allons donc parler des courts-métrages filmés dans les Hauts-de-France et de la dernière section qu'il nous manque, celle des vampires. Et pour vous donner un avant-goût, Thomas, toi, tu as été voir Meriem Rabhi, donc qui est la programmatrice de la section Afrofuturisme et Futurisme africain, et tu as été la voir pour lui demander de présenter le film La Féline, est-ce que j'ai raison?
Meriem Rabhi, oui, elle va présenter la séance La Féline, un film de Jacques Tourneur. Jacques Tourneur qui est surtout célèbre pour avoir réalisé 3 films fantastiques, Vaudou, L'Homme Léopard et La Féline. La Féline, ces 3 films fantastiques, ce sont des films produits par la RKO, en particulier par Val Newton. Il y a aussi un autre film, c'est Rendez-vous avec la peur. J'ai oublié Rendez-vous avec la peur, qui est un grand film aussi, et produit par Val Newton aussi. Et Val Newton et Jacques Tourneur, ça fait un duo bien particulier parce que tous les deux, ils ont suggérer plutôt que montrer. Je sais que ce n'est pas seulement l'apport de Jacques Tourneur, c'est aussi l'apport de Val Newton qui a beaucoup fait par rapport à l'esthétique de ses films, où Jacques Tourneur privilégie de filmer des ombres, des choses comme ça. Et ça donne absolument trois chefs-d'œuvre. Donc Vaudou, La Féline, Rendez-vous avec la peur. L'Homme Léopard est plus mineur, c'est une sorte de suite à La Féline. La Féline n'est pas vraiment un film de vampire, mais ça rejoint certaines thématiques, notamment une thématique qui rejoint celle du sexe en fait. Tout ça, c'est du cinéma très érotique quelque part. C'est du cinéma très érotique tout court d'ailleurs. Et donc Myriam Rabhi nous explique pourquoi elle a choisi de présenter La Féline à la séance de 14h15 au cinéma Orson Welles vendredi 22.
Alors déjà moi j'admets que je considère que c'est pas tant différent parce que on est dans les films de genre, on est finalement encore une fois en train de s'intéresser aux marginalités, ce qui est exactement ce qui m'intéresse dans les films de genre justement. Et ben, en fait La Féline, quand au début j'avais pensé mon rendez-vous de films de genre, en fait il était dans la première programmation que j'avais créée qui tournait autour des proies. Et notamment comment le cinéma en fait mettait en scène les proies et trouver des astuces pour pouvoir nous faire ressentir cet effet de chasse. Et donc la Féline donc de Jacques Tourneur, c'est un film déjà important. Ça a été, je crois, un film comme ça là dans ce qu'on appelle ma cinéphilie, un film qui m'a marqué. Dans sa simplicité, et néanmoins il est percutant, il va au plus juste. C'est aussi un film donc de la RKO qui est une boîte de prod américaine qui a été hyper importante, qui m'a construite en fait en tant que personne qui regardait beaucoup de films et notamment des vieux films en noir et blanc, et La Féline en faisait partie. De par, on va dire, le nombre quand même de films assez importants qui est sorti la RKO en termes de monstres, dans tout le bestiaire hollywoodien qui ont donné une part importante quand même à l'histoire du cinéma en termes de monstres, et ben là on est avec La Féline, et là on a Jacques Tourneur qui est donc quelqu'un qui se bat très régulièrement avec les studios parce qu'en fait lui il ne veut pas montrer, il veut être dans la suggestion. En fait il veut pas spécialement montrer les monstres, justement il est plus dans l'effet de malaise, dans l'effet d'angoisse, et justement le petit pas de côté d'ailleurs quand j'ai dit que j'allais présenter La Féline dans la section vampire, il y a des personnes qui sont dans le monde du cinéma, hein, qui connaissent bien même les films fantastiques et qui m'ont dit mais c'est pas un film de vampire. Et pourtant, on retrouve énormément, j'ai envie de dire que le film il est vampire codé, parce qu'on retrouve énormément de codes en fait dans le film.
Parce que la figure du vampire, c'est la sexualité qui est vécue librement.
C'est le désir en tout cas, oui. Le vampire, je veux dire, les vampires, effectivement, sont quand même très attachés, très rattachés à la notion de désir et comment exprimer le désir dans les films. Et en fait, dans les films de genre, oui, c'est vrai que le vampire a une place assez importante, mais surtout parce qu'en fait, dans même les œuvres littéraires, c'est énormément là.
C'était donc l'avis de Myriam Rabhi sur le film qu'elle présente, donc tu l'as dit Thomas, vendredi, et qui s'appelle La Féline. Et moi, je vous propose qu'on s'écoute la bande-annonce, parce qu'on n'a jamais assez de bande-annonce.
Across the centuries comes this exciting story of a modern girl cursed by an ancient legend. The legend of the cat people. Women whose kiss means death. Whose love turns them into vicious, snarling beasts of prey.
Twice I've been followed by something that was not human. Something that attempted to take my life. I believe that was the cat form of Irena.
Why should she wish to harm you?
Because I'm in love with her husband. It shut, Belle. Just a minute ago, it was open.
It's locked. ridiculous, Lorena.
C'était donc la bande-annonce du film La Féline de Jacques Tourneur. Avant de se quitter quand même, on se fait un point sur les avant-dernières séances à venir. Alors à 14h, découvrez le film d'Alain Gessua, sorti en 1972, Traitement de choc, c'est au Ciné Saint-Leu. Vous pouvez aussi découvrir les courts-métrages tournés dans les Hauts-de-France à 14h au cinéma Orson Welles, suivi à 16h30 d'une rencontre avec l'école de cinéma La Fémis, qui vient présenter une série de films. Et à 18h30, c'est la 9e édition de Fais ton cours, organisée par les Faquins au Petit Théâtre. Pour les séances du soir, nous avons à 21h30 Kinshasa Makambo de Diodo Amadi au Petit Théâtre, L'amour nu de Yannick Bellon à 21h15 au cinéma Orson Welles, et à 21h, il y a un mini-marathon de films de vampires au ciné Saint-Leu. Voilà, donc est-ce que vous, il y a une séance qui vous fait l'œil ?
Le double features Vampires avec First Ceci et mon sang de Park Chan-wook. J'ai pas un grand souvenir du film, mais par contre, Aux frontières de l'eau de Catherine Bigelow, ça c'est vraiment un grand film. C'est l'un de ses premiers, c'est son second film, second long métrage. Et ça c'est vraiment très chouette. C'est une révision du mythe du vampire à la sauce western et c'est vraiment très bien.
Bah moi je vais, pas pour te paraphraser trop, hein, mais pareil, le double feature Vampire. Avec du coup First Ceci est mon sang, sachant que petite prison, le film est diffusé en 35 mm. Voilà, c'est une copie 35 mm, et du coup bah c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'aller voir ou même revoir un film en 35 mm. Voilà, et le ciné Saint-Leu a cette chance de continuer à diffuser 35 mm, donc rien que pour ça bah faut y aller, n'est-ce pas, Adam? Et puis puis toi tu t'adores Bigelow, donc forcément tu vas nous conseiller d'aller revoir Aux frontières de l'eau.
Je travaille dessus, mais voilà. Je travaille dessus, c'est mon sujet de recherche. Donc, mais moi, pour pas paraphraser non plus, moi c'était un long métrage très intéressant. Évidemment, on revisite le mythe du vampire sur le fond de western. Ça aborde les thématiques de son époque, et puis il y a toute cette lecture de la violence qui est importante dans son cinéma. Et puis voilà, c'est un double feature très intéressant. Et j'aime beaucoup Thirst. Voilà, je serai un des seuls à le dire, mais je trouve ça un des meilleurs par Chan-wook sur sa lecture de la violence, sur l'esthétique qu'il apporte aux vampires, assez froid, assez hermétique. Et en tout cas, c'est une double feature très intéressante qui est présentée par la rédaction de Fais pas genre.
Eh bien, merci beaucoup. Donc on vous invite à aller voir, donc ça a conquis vraiment toute la table, hein, ce double feature.
Ce sont deux grands films.
Ce sont deux grands films. Ben voilà, ça y est, on débobine, c'est déjà fini pour aujourd'hui et je suis un peu triste car demain, c'est déjà la dernière et j'ai vraiment bien aimé faire cette émission avec vous. Là, vous pouvez répondre nous aussi, hein, mais bon...
C'est beau, je vais être ému, je vais pleurer.
Mais bon, ouais, on a quand même un dernier épisode à tourner avant, donc au boulot, on va voir des films et on se retrouve demain dans On débobine le FIFAM. À demain.